Dans le cas des Philippines, c'est difficile d'être optimiste, d'une part parce qu'on ne connaît pas encore vraiment quel sera l'engagement de ce gouvernement-ci à régler le conflit. C'est clair et net que M. Duterte et sa garde rapprochée veulent démontrer qu'ils sont capables d'apporter des résultats rapidement. Ils ont fait des ouvertures comme on n'avait pas vu dans le passé. Jusqu'à quel point il sera capable de maintenir le momentum, c'est une première question. Pour les révolutionnaires, la guérilla, ils sont prêts à négocier parce que, d'une part, il y a la fatigue d'une révolution qui ne risque pas de triompher. Est-ce qu'ils sont prêts maintenant à faire des concessions importantes pour avoir accès à certains postes d'influence dans le gouvernement? La question reste ouverte parce que à chaque nouvelle administration, on a vu des processus semblables. Donc, il semble avoir une volonté réelle. Les conditions semblent favorables à un accord de paix parce que, d'une part, les révolutionnaires commencent à s'essouffler et, d'autre part, le président actuel semble avoir mis une priorité sur ce conflit.
Vous avez mis en avant le changement engagé depuis l'arrivée du président Duterte au pouvoir. En ouvrant le dialogue avec les rebelles communistes, quels sont les objectifs du président? Que cherche-t-il?
Il semble relativement rusé. Ben, rusé dans le sens où, dans son cabinet, il a nommé deux personnes des ministres de la réforme agraire, qui est un des points importants de la rébellion agraire du Parti communiste, et entre autres sur la question de la concentration de la terre, et également une militante de longue date féministe. La deuxième chose, c'est qu'il a déclaré unilatéralement un cessez-le-feu dès le début de son administration en disant « nous allons avancer rapidement sur ce domaine ». Il a également permis qu'on assassine de façon extrajudiciaire plus de 2000 personnes, souvent des jeunes qui sont suspectés d'être des trafiquants, des petits trafiquants de drogue. Donc, il y a une situation relativement volatile aux Philippines et c'est ce qui rend la difficulté de comprendre vraiment jusqu'à quel point ça peut avancer. C'est à suivre, c'est une histoire à suivre et on ne peut pas connaître encore le dénouement à ce moment-ci.
Au-delà du président Duterte et du leader de la guérilla, existe-t-il une réelle volonté de se diriger vers la paix du côté des communistes et du côté des citoyens philippins?
Je pense que au niveau de la population en général, 80% des gens parlent plus de l'insurrection. Les gens sont beaucoup plus préoccupés par avoir un emploi, aller faire des achats dans les centres d'achat, après dans les centres d'appel. Les jeunes qui sont dans leur vingtaine, ils ont l'impression que ça date d'une autre époque. Au niveau des citoyens ordinaires, certains, soit de la fatigue, soit de dire faut régler ça une fois pour tout. Pour l'instant, ça nous donne une mauvaise image. Pour les sympathisants, les gens qui sont associés à la société civile plus militante, il y a un paradoxe important et une contradiction importante. On a un président qui a une ouverture vers la gauche, armée, révolutionnaire. Par ailleurs, on a le plus haut taux d'exécution extrajudiciaire, autour de 2000 personnes tuées sans même avoir eu un processus légal d'arrestation. Et donc, on a un gouvernement qui a décidé qu'eux allaient prendre les grands moyens. Et beaucoup commencent à se demander pourquoi on ne s'attaque pas aux dirigeants des cartels de drogue. Pourquoi est-ce que ce sont des petits trafiquants qu'on retrouve morts dans la rue? Et donc, il y a cette espèce de contradiction au sein de la société civile qui est divisée sur comment réagir face à Duterte qui est à la fois ses ouvertures et à la fois un côté réactionnaire populiste qui semble être peu conscient ou peu préoccupé du respect des processus légaux.